Et oui, vous le savez, le pape François a dédié cette année à Saint Joseph, ceci pour marquer le 150e anniversaire de la proclamation de l'époux de la Vierge comme patron de l'Église universelle. Alors ce matin, je vous propose non pas un cours de théologie, mais plutôt un cours d'histoire. Allez, soyons fous. Que savons-nous exactement de Saint Joseph? Eh bien, c'est Philippe Faureau qui a accepté de répondre à cette question. Bonjour Philippe.
Bonjour Isabelle.
Nos auditeurs vous connaissent, hein, Philippe, c'est vous qui animez les fenêtres de l'histoire les jeudis à 17h sur Radio Présence. Vous êtes par ailleurs maître de conférence à l'université Jean Jaurès à Toulouse où vous enseignez l'histoire du christianisme. Vous êtes diacre également et donc c'est vous qui avez accepté cet exercice. Je vous en remercie, Philippe Faureau. Alors, allons-y, attelons-nous à cette tâche. De quelles sources les historiens disposent-ils pour étudier Saint Joseph ?
Alors, si on devait faire une biographie de Saint Joseph, l'historien serait en peine. Parce qu'en fait, sur la vie de Joseph lui-même, nos sources sont quand même très limitées. On peut compter sur les évangiles, et encore pas tous. Parce que Marc et Jean, par exemple, ne s'intéressent pas à Saint Joseph. D'ailleurs, ils ne s'intéressent pas à la nativité, en général, donc. Donc il faut aller chercher vers Matthieu et Luc. Et là encore, on évoque Saint-Joseph, on le voit jouer un rôle, mais il ne parle pas. Hein, c'est un taiseux, Saint-Joseph. Il n'a pas il ne prend pas du tout la parole. Et si on regarde par exemple Matthieu, cela fonctionne plutôt par des songes. Hein. L'ange du Seigneur lui apparaît, il doit donc garder auprès de lui Marie. Il doit partir en Égypte, il doit revenir d'Égypte après la mort d'Hérode. Donc voilà, il ne parle pas, mais il joue un rôle tout de même au travers de songes. Si on regarde Luc, il y a quelques éléments chez Luc aussi, mais là encore, Marie parle plus que Joseph. Par exemple, à la présentation de Jésus au temple, c'est elle qui est en première ligne, joue un rôle finalement de second rôle par rapport à Marie. Donc les évangiles nous renseignent peu. Par contre, là où il y a des sources importantes, mais qui n'appartiennent pas à ce qu'on appelle le canon de l'Église, ce sont les écrits apocryphes. Les écrits apocryphes sont les écrits du IIe siècle, et qui d'ailleurs ont été publiés récemment dans la Pléiade, donc nos auditeurs peuvent s'y reporter s'ils le souhaitent. Et là par contre, on donne des éléments sur Joseph. Si vous me le permettez, je voudrais juste en donner deux pour montrer justement l'importance de ces apocryphes. Par exemple, au moment de prendre Marie avec lui, un prêtre du temple, dans l'évangile, enfin le proto-évangile de Jacques, l'incite à prendre Marie. Et alors, il a cette réponse, « J'ai des fils, je suis un vieillard, et elle est une toute jeune fille. Ne vais-je pas devenir la risée des filles d'Israël ?» Alors là, commence à naître quelque chose, c'est que il aurait été marié, il aurait eu des enfants, et il est relativement âgé, en tout cas, il se présente comme quelqu'un de beaucoup plus âgé que Marie. Et puis, dernier exemple, pour montrer l'importance de ces textes qui créent quand même une tradition historique autour de Joseph, c'est qu'à un moment donné, le grand prêtre se rend compte que Marie est enceinte. Et alors, il va accuser Joseph d'avoir eu des relations amoureuses avec elle, avant même le mariage. Et voilà ce qu'il lui dit, ne rends pas de faux témoignages, mais dis la vérité, tu as consommé furtivement ton mariage, tu n'as pas averti les fils d'Israël, et tu n'as pas incliné la tête sous la puissante main pour que ta descendance fût bénie. Et là, effectivement, il y a un petit dialogue entre le grand prêtre et Joseph. Vous voyez ? Mais ce sont des sources apocryphes.
Eh bien oui, mais justement, ces sources apocryphes qui n'ont pas été retenues par l'Église, le fait qu'elles ne soient pas reconnues, est-ce que ça ne pose pas un problème tout de même pour les historiens? Est-ce qu'elles sont, elles sont considérées comme étant fiables?
Ah mais les historiens, je dirais, même les historiens chrétiens, ne se posent pas uniquement la question de la fiabilité. parce qu'après tout, la question se pose aussi pour certains passages des évangiles canoniques. Mais par contre, ce qui intéresse les historiens avec ces textes apocryphes, c'est qu'ils représentent des traditions qui ont existé dans le premier christianisme. C'est-à-dire que dans certaines communautés, d'où sont issus ces textes apocryphes, eh bien, il y avait l'idée que Joseph, par exemple, avait été déjà marié et qu'il avait des enfants. Alors, vrai ou faux, c'est difficile. Certains historiens pensent effectivement de toute manière qu'il y a eu éventuellement un premier mariage, ce que croit d'ailleurs l'Église orthodoxe. Mais, si vous voulez, la fiabilité, disons que ces textes représentent ce que pouvaient penser et ce qu'ont pensé des communautés chrétiennes qui se sont mis à écrire au cours du IIe siècle. Alors même si ce n'est pas canonique, pour l'historien, c'est quand même très intéressant.
Et les évangiles en tant que tels, pour l'historien, c'est intéressant également comme source, dans la mesure où c'est forcément un texte empreint par la foi, donc nécessairement subjectif.
Oui, et vous savez, Isabelle, tout texte est souvent subjectif. Je veux dire, l'historien se trouve souvent face à des documents écrits qui sont subjectifs. Les évangiles sont effectivement un témoignage de foi. Ils ne veulent pas, je dirais, faire œuvre d'histoire, mais ils sont quand même utilisables par les historiens, quitte d'ailleurs à ce que les historiens puissent souligner quelques difficultés par rapport, par exemple, à la chronologie de la naissance du Christ. Bon, et les historiens ont l'habitude de travailler face à des textes subjectifs. L'historien du nazisme, il travaille sur des textes éminemment subjectifs. Mein Kampf est subjectif. Une vie hagiographique d'un saint ou d'une sainte à l'époque mérovingienne, c'est subjectif. Donc ça, c'est le travail de l'historien, de se dépatouiller avec ce genre de documents.
L'historien se dépatouille. Alors là, vous l'avez dit, il se dépatouille avec des sources peu nombreuses. Finalement, des sources peu nombreuses. Est-ce que ce n'est pas le cas pour tous les personnages de la Bible ?
Alors, effectivement, la plupart des personnages de la Bible ne disposent pas de sources extrêmement importantes. Si je m'en tiens au Nouveau Testament, il y a eu tout de même des travaux universitaires sur des personnages importants du Nouveau Testament. Je pense par exemple à la thèse de Jean-Pierre Limonon sur Ponce Pilate. Il y a eu aussi plusieurs biographies du roi Hérode le Grand, qui apparaît dans les évangiles. Et puis je pense à Paul. Saint Paul a aussi eu ses biographes, mais avec la prudence historique qui est nécessaire. Mais vous avez raison, beaucoup de personnages bibliques ne reposent pas sur des sources historiques extrêmement fortes, oui.
Alors, Philippe Foreux, nous sommes ensemble, je le dis, à l'endroit de ceux qui nous rejoindraient, hein, pour étudier la vie de Saint-Joseph, regarder Saint-Joseph par le prisme de l'histoire. Vous êtes historien. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces sources, aussi maigres soient-elles, sur Saint-Joseph ?
Alors, sur Saint-Joseph, les sources, donc, pour faire une biographie au sens historique du terme, on a vu que c'est quasiment impossible de faire une biographie. Par contre, ce sur quoi les historiens ont pu se pencher, c'est la manière dont les chrétiens, au cours du Moyen-Âge, l'époque moderne, etc., ont fait de Saint-Joseph. C'est-à-dire qu'il y a une tradition qui s'est créée autour de Joseph, et c'est une tradition qui se développe à la fin du Moyen-Âge et à l'époque moderne. En effet, on s'aperçoit que jusqu'au XIIIe siècle, la chrétienté ne s'intéresse que peu à Saint-Joseph. Par exemple, si vous regardez les sermons de Saint-Bernard, il fait des sermons sur le mariage, sur la Vierge, et il n'évoque Saint-Joseph que par détour. Et puis, à partir du XIIIe siècle, sans doute sous l'impulsion des franciscains, on va s'intéresser à Joseph parce que il est modeste, parce que c'est quelqu'un de humble, que l'on présente comme tel. C'est le charpentier, ça, effectivement, les
Ça, c'est
grands
quelque chose,
gigots,
c'est
le
une indication
charpentier.
qu'on apprend quand même, ouais.
Voilà. Et là, les franciscains ont développé une attention toute particulière envers Joseph, sans doute pour son humilité. Et puis, vous avez aussi un grand théologien du XVe siècle, Gerson, qui avait fait un traité sur Saint Joseph en 1414, qui s'appelait Les Considérations sur Saint Joseph. Et alors, à partir, je dirais, de la réforme catholique, c'est-à-dire à partir du XVIIe siècle, lorsqu'elle se déploie véritablement, là, Saint Joseph va être véritablement mis en avant par l'Église. Par exemple, en 1621, le pape Grégoire XV fait de la Saint Joseph le 19 mars une fête d'obligation au sein de l'Église. Il y a même un cas d'une apparition de Saint Joseph au XVIIe siècle qui est rapporté, puisque en 1661, vous avez une apparition de Joseph. Donc, ça va se développer progressivement, et puis, pour terminer, ça va atteindre une véritable apogée, enfin, un véritable apogée, c'est à partir du 19e siècle, où vous avez effectivement, par exemple, le pape Léon XIII, qui, en 1889, demande à ce que Saint Joseph
Oui.
apparaisse comme le modèle des pères de famille et le patron des travailleurs, ce qui fait qu'il est aussi
Oui.
fêté le 1er mai.
Et oui, c'est un saint, un taiseux, donc vous nous l'avez dit, qui ne parle pas beaucoup, dont on ne sait pas grand-chose, mais qui est fêté deux fois hein, dans le calendrier, à la fois le 19 mars et à la fois le 1er mai. Un mot tout de même, donc vous nous avez bien dit, Philippe Faureau, on a bien compris hein, que le culte de Saint-Joseph arrive finalement assez tard dans l'Église. Un mot sur ce que nous disent les sources, sauf erreur de ma part, j'ai l'impression qu'il disparaît des évangiles, si je puis me permettre, à partir du ministère public de Jésus. La dernière apparition de Joseph dans les évangiles, c'est au temple, quand Jésus a 12 ans, je crois, hein.
Oui, voilà. C'est au temple, donc dans l'évangile de Luc. Et puis ensuite, il disparaît. Il disparaît. Autre remarque aussi, dans Jean, avec les noces de Cana, il n'est pas aux noces. Marie est invitée, Jésus aussi, mais pas Joseph. Donc, cela suppose effectivement qu'il soit peut-être décédé. Et effectivement, il y a une tradition qui dit que il est décédé avant même l'entrée dans la vie publique du Christ. D'où d'ailleurs des représentations aussi de la mort de Joseph, par exemple à Notre-Dame du Thor, où il y a une représentation de Joseph mort aux côtés de Jésus. Et il y a là aussi toute une tradition qui se constitue durant le Haut Moyen Âge. Il y a des textes coptes des 7e, 8e siècles qui expliquent et qui montrent Jésus expliquant la mort de Joseph. Alors là, ce sont des textes, voyez, relativement tardifs. Mais effectivement, vous avez raison, il n'apparaît jamais dans la vie publique, pendant la vie publique de Jésus.
Alors, Joseph le taiseux, Joseph qui s'efface, Joseph, donc, pourtant à l'honneur cette année, mis à l'honneur par le pape François. Il avait déjà marqué son intérêt pour Joseph depuis le début de son pontificat, le pape François. Hein, il l'avait inscrit dans ses armes pontificales à côté de Jésus et Marie, une fleur de nard qui symbolisait Joseph. Il a même consacré l'État du Vatican à Saint-Joseph en juillet 2013. Et pourtant, ça vous a surpris, je crois, Philippe Faureau, le fait qu'il dédie cette année à Saint-Joseph.
Surpris, disons que oui, spontanément, mais je ne suis pas dans les arcanes du Saint-Père, et donc je n'aurais pas spontanément pensé à Saint-Joseph. Peut-être que dans quelques années, il y aura plutôt une année, par exemple, François d'Assise pour le 800e anniversaire de sa mort. Voilà. Mais je pense que il y a dans Joseph des éléments qui peuvent effectivement plaire aussi au pape François et à nombre de catholiques. C'est d'une part tout de même effectivement celui qui a assumé, je dirais, l'éducation. Il s'est occupé de Jésus tout de même. Il assume quelque chose avec abnégation parce que finalement, pour cet homme juif, qui apparaît pour bien de ses contemporains comme quelqu'un qui tout de même a une femme dont l'enfant est-il vraiment responsable? Enfin voilà, il y a tout je dirais, un élément, et là des sources juives nous en parlent, qui montrent que Jésus est mal né, puisqu'on n'admet pas la divinité de la naissance du Christ. Et donc Joseph fait preuve d'abnégation, d'humilité, parce qu'il garde Marie et il accepte l'enfant. Bon, ça, je pense que c'est peut-être un élément important. Et puis, si on part du principe que, j'évoquais tout à l'heure les franciscains et Saint-Joseph, le pape François est proche de la communauté franciscaine, de l'esprit franciscain. Et le travailleur qu'a été Joseph, puisque charpentier, alors on peut débattre sur ce que veut dire exactement dans un tout petit village de Judée être charpentier, mais quelqu'un qui travaille de ses mains, je crois que ça c'est un élément qui peut aussi plaire au pape François, parce qu'il a cet esprit franciscain.
Merci beaucoup Philippe Faureau pour cette étude de Saint-Joseph que vous nous avez donnée ce matin. Je vais terminer avec ces mots du pape François, justement dans sa lettre apostolique Patris Cordae, avec un cœur de père. Nous pouvons nous tous trouver en Saint-Joseph l'homme qui passe inaperçu, écrit le pape François, un soutien et un guide dans les moments de difficulté. Saint-Joseph nous rappelle que tous ceux qui apparemment sont cachés ou en deuxième ligne jouent un rôle inégalé dans l'histoire du salut. Merci beaucoup Philippe Faureau.
Merci Isabelle, au revoir.